L'art de cuisiner le compost. La préparation des fruits et des légumes laisse souvent de la matière inutilisée comme des fans, les épluchures ou les noyaux. Ces déchets peuvent être recyclés avec un peu d'ingéniosité.
Les fans de radis, navets, carottes, betteraves, brocolis et panais peuvent être transformés en pesto, mixés avec de l'huile d'olive, de l'ail et des graines, amandes, tournesol, noix, pignons, ou cuites dans une soupe.
Les tiges de persil et de coriandre peuvent corser le goût d'un bouillon.
Les pelures de pommes de terre ou de poires non traitées peuvent être utilisées pour des infusions.
Les zestes d'orange et de citron peuvent être intégrés dans des desserts ou séchés pour être conservés.
Les noyaux de cerises, pêches et abricots peuvent aromatiser des liqueurs après macération pendant plusieurs semaines dans de l'alcool et du sucre.
He never knew what I was made of. He couldn't melt me, cold couldn't cave me. He never knew my form or shape. His heart couldn't melt me, water couldn't tame me.
J'ai choisi d'utiliser les termes existence lesbienne et continuum lesbien parce que le mot lesbianisme a une connotation clinique et limitative, et aussi parce que le terme existence lesbienne évoque à la fois le fait de la présence des lesbiennes dans l'histoire et l'idée que le sens de cette existence est une création continue. Par continuum lesbien, j'entends un large registre, aussi bien dans l'histoire que dans la vie de chaque femme, d'expériences impliquant une identification aux femmes, et pas seulement le fait qu'une femme a eu ou a consciemment désiré une expérience sexuelle génitale avec une autre femme. Si on élargit ce terme pour y inclure les multiples formes de rapports intenses et privilégiés entre femmes, qui comprennent aussi bien la capacité de partager sa vie intérieure que celle de faire front contre la tyrannie masculine, et que celle de donner et de recevoir un soutien pratique et politique. Si on parvient également à associer ce terme à des notions telles que la résistance au mariage, à l'étendre aux conduites insensées identifiées par Marie Daly, on commence à comprendre des pans entiers de l'histoire et de la psychologie des femmes, restés jusqu'ici hors d'atteinte, en raison des définitions limitées pour la plupart cliniques du lesbianisme. L'existence lesbienne inclut à la fois la transgression d'un tabou et le rejet d'une forme de vie obligatoire. C'est aussi une attaque directe ou indirecte contre le droit masculin d'accès aux femmes. Mais bien que nous puissions l'apercevoir d'abord comme une façon de dire non au patriarcat, un acte de résistance, c'est plus que toutes ces choses. Cela a aussi inclus la reproduction des rôles, la haine de soi, la dépression, l'alcoolisme, le suicide et la violence entre femmes. C'est à notre péril que nous romantisons ce que cela implique d'aimer et d'agir à contre-courant, sous la menace de sanctions graves, et l'existence lesbienne a été vécue, sans accès à la connaissance d'une tradition, d'une continuité, d'un ancrage social quelconque. À la différence de l'existence catholique ou de l'existence juive, par exemple. La destruction des traces, des mémoires et des lettres attestant les réalités de l'existence lesbienne doit être prise très au sérieux, comme moyen de préserver la contrainte à l'hétérosexualité. Car ce qui nous a été dissimulé, c'est la joie, la sensualité, le courage, la communauté, tout autant que la honte, la trahison de soi et la douleur.
De même que le terme lesbienne a été confiné dans les associations mentales, cliniques et limitatives de sa définition patriarcale, de même l'amitié féminine, la camaraderie ont été séparées de l'érotique, limitant ainsi l'érotique lui-même. Mais au fur et à mesure qu'on approfondit et qu'on élargit le champ de ce que j'appelle l'existence lesbienne, qu'on définit un continuum lesbien, on commence à redécouvrir l'érotique en termes féminins, comme ce qui n'est circonscrit dans aucune partie spécifique du corps, ni même dans le corps, comme une énergie non seulement diffuse, mais, ainsi qu'Audrey Lorde l'a décrite, omniprésente dans le partage de la joie, qu'elle soit physique, affective, psychique, et dans le partage du travail. Comme cette joie énergisante qui nous protège contre l'acceptation de l'impuissance ou de ces états de l'être qui ne sont pas naturels, tels que la résignation, le désespoir, l'auto-effacement, la dépression, l'abnégation masochiste. Dans un essai sur les femmes et le travail, j'ai cité le passage où la poète H.D. décrit comment son ami Breyer l'aide à persister dans l'expérience visionnaire qui devait donner forme au travail de sa maturité. J'avais connu des gens extraordinairement doués et charmants. Ils m'avaient apprécié ou ils m'avaient méconnu, et cependant, ni les compliments ni l'indifférence ne comptent en face de grandes questions, la vie et la mort. Et cependant, d'une façon étrange, je savais que cette expérience, cette vision qui s'imposait à moi, ne pouvait être partagée avec personne, sauf avec cette fille qui se tenait si bravement à mes côtés. Cette fille avait dit sans hésitation « Continue ». C'était elle en réalité qui possédait le détachement et l'intégrité de la pitié de Delphes. Mais c'était moi, rompue et désarticulée, qui voyais les images et qui lisais le message et à qui la vision intérieure avait été donnée. Ou peut-être, d'une certaine façon, la voyions-nous ensemble. Car sans elle, cela ne fait pas de doute. Je n'aurais pas pu continuer.
Seit 10.000 Jahren durch dieser blöden Wüste immer das gleiche: Sonne, Sand, blauer Himmel. Und nachts genauso Sand, nur dass der Himmel schwarz ist mit ein paar Flecken, Sterne und der Mond. Manchmal sehe ich Geister am Horizont, Pferde mit oder ohne Reiter, Schattenbäume, Palmen, schwummrige Farben, die Wasserzeichen.
Les promenades avec les glénures tenues en laisse ne se font pas sans mal. Leur corps long et filiforme repose sur des milliers de pattes. Sans cesse, elles essaient de se déplacer vers un autre endroit que celui où on est. Leurs yeux innombrables sont rangés autour d'un orifice géant qui leur sert de bouche en même temps qu'il leur tient lieu de tête. Une membrane molle et extensible la remplit, pouvant se tendre et se détendre, chacun de ces mouvements produisant un son différent. On compare le concert des glénures aux fifres, au tambour, au coassement des crapauds, au miaulement des chats en rute, au son aigre d'une flûte. Les promenades avec les glénures sont interrompues à tout moment. La cause en est qu'elles s'enfilent systématiquement dans les interstices qui peuvent donner passage à leur corps, les grilles des jardins publics, les grilles des égouts par exemple. Elles y entrent à reculons, le volume de leur tête les arrête à un moment donné, elles se trouvent coincées, elles se mettent à pousser des cris épouvantables. Il faut alors les dégager de là.
Endo, tu dors ?
Pas encore.
Dis, tu es bien avec moi ?
Bien sûr. Pas toi ?
Si, si. Tout à l'heure, c'est ça que je voulais te demander en réalité.
Elles disent qu'elles exposent leur sexe afin que le soleil s'y réfléchisse comme dans un miroir. Elles disent qu'elles retiennent son éclat. Elles disent que les poils du pubis sont comme une toile d'araignée qui capture les rayons. On les voit courir à grandes enjambées. Elles sont toutes illuminées en leur milieu, à partir des pubis, des clitoris encapuchonnés, des nymphes doubles et plissées. L'éclat qu'elle jette en s'immobilisant et en se tournant de face fait que les yeux se fixent ailleurs, non pouvant supporter la vue.
Place un mot premier, immobile et du bout des doigts. Tu presses une petite montagne de miettes dans un carreau de la nappe, comme dans la solitude des murs de coton d'une chambre d'hôtel, tapissée de tests de Rorschach. Pourtant, la solitude ne peut être une revanche. Tu ne dois pas penser larve ou larvaire ou foetus apodictique. Tu sais que tu es dans cet endroit dont tu ne pourras jamais sortir. Tu ne peux te fier aux cartes, si tant est qu'elles existent. Tu ne voulais pas te répéter, t'étais pas luné pour, sans essence. Et pourtant ça ressasse, ça repasse, débarrasse par boucles annihilées. Tu as aimé ce qu'elles criaient, les renardes. Ça oui, les grands événements ne se font pas autrement. Des bancs entiers, leur babil labial d'exactitude approximative, marchés par les rues, remâchés par l'oubli de l'histoire, roulottés dans leurs plis vocaux, censés modifier les règles du jeu, d'assignation. Et tu as aimé ce qu'elle crie encore, encore heureuse.
Hi there, this is Isabel from Radio Ragazza, bringing you a little tune that you'll be hearing an awful lot of these days from the makers of our revolution. You might not be hearing it here, but you'll be hearing it everywhere else you go. Happy anniversary.
Il y a quelque part une sirène. Son corps vert est couvert d'écailles. Son visage est nu. Les dessous de ses bras sont couleur d'incarnat. Quelquefois, elle se met à chanter. Elles disent que de son chant, on n'entend qu'un « haut » continu. C'est ce qui fait que ce chant évoque pour elle comme tout ce qui rappelle le « haut », le « zéro » ou le « cercle », l'anneau vulvaire.
Thank you. Et en ces temps politiques très sombres du début des années 1980, où une partie de la population était littéralement terrorisée par la menace d'une guerre nucléaire et le possible anéantissement de leur monde, les rituels néo-païens, loin de minimiser cette peur et le désespoir qui lui était souvent associé, portent au contraire toute leur attention sur eux. Le premier acte de magie de ces écoféministes néo-païennes fut de créer, au sein de ces mobilisations, des espaces, des cercles, dans lesquels puisse se dire publiquement cette peur. Le fait même de la faire exister collectivement transforme cette émotion personnelle incapacitante en un problème politique, mais donc immédiatement aussi en une source possible d'émancipation collective. C'est ce que veut dire rêver l'obscur, laisser monter, affronter l'obscur ensemble pour ne pas être dévoré par lui. Toutes les manifestations, blocages, parades, discours de ces années-là sont animés par cette façon nouvelle de faire de la politique, expérimentent la force de ces rituels néo-païens, eux-mêmes très influencés par les pratiques féministes d'empowerment et les techniques d'organisation horizontale des anarchistes. Nommer la peur, nommer ce qui rend chacun et chacune d'entre nous impuissants, impuissantes, puis nommer de ce qui nous rend puissantes et puissants est un acte de magie et un acte politique pour les uns les unes, un acte uniquement politique et féministe pour les autres. Il reste qu'il s'est inventé là une manière inédite de faire de la politique, répondant à un besoin partagé par toutes de faire prise sur cette chape de plomb.
Si on peut émettre l'hypothèse que toutes les femmes, du bébé qui tète à la femme adulte qui éprouve des sensations orgasmiques en allaitant son propre enfant, peut-être parce qu'elle reconnaît l'odeur du lait de sa propre mère dans le sien, en passant par le couple de femmes qui, telles la Chloé et l'Olivia de Virginia Woolf, font de la recherche ensemble, ou la femme qui meurt à 90 ans dans des mains de femmes, si on peut penser que toutes ces femmes participe à un continuum lesbien. Alors, il nous devient possible de nous voir nous-mêmes comme entrant et sortant de ce continuum tout au long de nos vies, que nous nous pensions lesbiennes ou non. Cette façon de voir les choses nous permettrait de relier entre eux des aspects très différents de l'identification aux femmes. par exemple, les amitiés impudemment intimes des filles de 8-9 ans, d'un côté, et de l'autre, les regroupements, du 12 au 15e siècle, de ces femmes qu'on appelait des béguines. Elles faisaient maison commune, se louaient et se laissaient mutuellement par testament des logements, dans des maisons subdivisées et bon marché, situées dans les quartiers d'artisans des villes. Pratiquaient la vertu chrétienne, s'habillant et vivant simplement, et n'ayant pas de rapport avec les hommes. Gagnaient leur vie comme fileuses, boulangères, infirmières, ou faisaient des écoles pour les petites filles. Et arrivaient, jusqu'à ce que l'Église les force à se séparer, à vivre indépendantes, en dehors et du mariage et des restrictions conventuelles. Le concept de continuum lesbien permet de relier ces femmes aux lesbiennes plus connues de l'école des femmes réunies autour de Sappho au 7e siècle avant Jésus-Christ, aux sororités secrètes et aux réseaux économiques dont on signale l'existence parmi les femmes africaines, au sœurage chinois de résistance au mariage, communauté de femmes qui refusaient le mariage ou qui, si elles étaient mariées, refusaient souvent de consommer leur mariage et quittaient rapidement leur mari. Les seules femmes en Chine qui n'avaient pas les pieds bandés et qui, nous dit Agnès Smedley, accueillaient avec joie la naissance des filles et organisaient des grèves de femmes réussies dans les filatures de soie. Si on conçoit l'hétérosexualité comme le penchant affectif et sensuel naturel chez les femmes, alors on perçoit des vies telles que celles-ci comme déviantes, comme pathologiques, ou comme affectivement et sensuellement pauvres. Ou dans le jargon plus décent et plus permissif, on les banalise par le terme de « style de vie ». Dans cette optique, le travail de telles femmes, que ce soit simplement l'effort quotidien pour survivre et résister, ou le travail de l'écrivain, de l'activiste, de la réformatrice, de l'ethnologue ou de l'artiste, le travail d'autocréation est sous-évalué ou vu comme le fruit amer de l'envie du pénis, ou la sublimation d'un érotisme réprimé, les diatribes insensées d'une qui hait les hommes. Mais que l'on change seulement de lentille, et que l'on considère le degré auquel et les méthodes par lesquelles la préférence hétérosexuelle a été de fait imposée aux femmes. Alors non seulement comprend-on de toute autre façon le sens de telle vie, de tel travail individuel, mais on peut aussi commencer à percevoir, et comme une donnée majeure de l'histoire des femmes, le fait que les femmes ont toujours résisté à la tyrannie masculine. Un féminisme d'action, souvent, bien que pas toujours, sans théorie, a constamment réémergé dans chaque culture et dans chaque période. Nous pouvons commencer à étudier le combat des femmes contre l'impuissance, la révolte radicale des femmes, pas simplement dans ce que les hommes appellent des situations révolutionnaires concrètes, mais dans toutes les situations que les idéologies masculines n'ont pas perçues comme révolutionnaires. Par exemple, le refus de certaines femmes de produire des enfants, aidées en cela à grand risque et péril par d'autres femmes. Le refus de produire un niveau de vie et de loisirs supérieur pour les hommes. Les Gorn et Parker montrent combien les deux font partie de la contribution économique non reconnue, non payée, non syndicalisée des épouses. La sexualité légendairement, comme André Adworking le note, antiphallique des femmes, définie comme frigide et puritanisme, a de fait constitué une subversion du pouvoir masculin. Une révolte inefficace, mais une révolte quand même.
L'hétérosexualité a été imposée aux femmes d'une façon à la fois brutale et insidieuse. Et cependant, partout il y a eu des femmes pour résister, souvent au prix de la torture physique, de l'emprisonnement, de la chirurgie mentale, de l'ostracisme social et de l'extrême misère. La contrainte à l'hétérosexualité a été comptée parmi les crimes contre les femmes, par le tribunal de Bruxelles, sur les crimes contre les femmes en 1976. The Girl, de Meridelle Le Sueur, et Sula, de Toni Morrison, sont des romans qui révèlent tous les deux le continuum lesbien, par opposition aux scènes lesbiennes superficielles ou sensationnalistes dépeintes dans un ouvrage commercial récent. Dans chacun, nous voyons une identification aux femmes qui n'est pas entachée de romantisme. Chacun montre comment la compulsion hétérosexuelle tend à accaparer l'attention des femmes et comment les alliances diffuses et avortées entre femmes pourraient, si elles étaient plus conscientes, insuffler de la puissance à cet amour.
Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Aimé, Pomme, Barbe, Bénédicte, Suzanne, Cassandre, Osmonde, Jeanne, Herminie, Kika, Aurélie, Évangeline, Simone, Maximilienne.
Trotte, Vicky, Lola, Sevdaliza, Adrienne, Stéphanie, Myriam, Nina, Fée, Monique, Kiriko, Marcella, Béatrice, Lizzie, Léa, Alice, Starhawk, Harry, Michel, Beyoncé, Kelly, sur ses copies.
You bugging me?